Je pense que c'est mort là, tout le monde l'a vu, donc là je peux plus avoir cette arme atomique qui permettait d'avoir le calme et la sérénité. On est tous en attente du tome 6 et du tome 7 qui devraient arriver en 2019-2020.
On en reparle au prochain épisode, à bientôt.
Salut.
Et avant qu'on se retrouve, vous pouvez réécouter cette émission sur notre site polémix et la voix off.com.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G 101.5 FM.
Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Cette émission est une rediffusion.
Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Bienvenue au Labo des Savoirs. Le vin, on l'a vu lors d'une extraordinaire table ronde du Labo des Savoirs en mars 2018, est un véritable laboratoire de biochimie. Le champagne, c'est du vin et donc il n'échappe pas à la science. Il est aussi une exception française, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2015. Un vin effervescent, associé à la fête, à l'élégance aussi, et qui fait l'objet de recherches toujours plus poussées. Que l'on soit amateur, amatrice ou non, il est bien rare de passer les fêtes de fin d'année, Noël et jour de l'an, sans tremper au moins une fois ses lèvres dans une coupe de champagne ou de vin pétillant. Mais que savons-nous réellement de ce nectar et surtout de cette effervescence qui fait tout son charme? C'est le thème de cette nouvelle émission du Labo des Savoirs.
Le Labo se lit aussi sur les réseaux. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter.
Une émission en immersion, vous l'aurez compris, que nous vous proposons, entourés, chanceux et chanceuses que nous sommes, de flacons à bulles. Autour de la table, Paul Pascal, professeur Max, Valentin Briche, Ludivine Vendée, Jérémy Frexas.
Bonjour le monde.
Bonjour.
Bonsoir.
Et moi-même, Agathe Petit, pour faire pétiller la science et vos esgourdes par la même occasion. Le saviez-vous? Seuls 7 cépages sont autorisés dans le cadre de la fabrication du champagne, dont 3 largement majoritaires. 2 cépages à raisin noir, le pinot noir et le meunier, et 1 cépage à raisin blanc, le chardonnay. Alors ces cépages sont utilisés évidemment dans d'autres régions pour faire d'autres vins, mais pour faire du champagne, il faut qu'ils soient cultivés dans une zone géographique délimitée qui s'étend grosso modo de Reims à Troyes et d'Épernay à Château-Thierry, au nord-est de Paris. L'un des paramètres fondamentaux pour appréhender les propriétés du champagne, bien qu'il puisse paraître peu glamour, c'est le dioxyde de carbone, le fameux CO2 qui réchauffe notre atmosphère. Pourquoi est-il si important? Comment influence-t-il le goût du champagne? Élément de réponse avec Jérémy Frexas.
Alors en effet, s'il y a bien un endroit où le CO2 est bien utile, c'est en cuisine. Et en particulier lorsque l'on cherche à faire des boissons gazeuses. Alors la boisson reine, lorsqu'on parle de bulles, on commence à le comprendre, c'est le champ. La science nous révèle que sans ce gaz, le champagne ne serait plus le même. Donc les résultats présentés dans cette chronique sont tirés d'un article rédigé par Gérard Ligère-Beller, Guillaume Polidori et Virginie Zeninari. Cet article est intitulé « Unraveling the evolving nature of gaseous and dissolved carbon dioxide in champagne wines, a state-of-the-art review from the bottle to the tasting glass ». Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi porter autant d'attention au dioxyde de carbone? Alors il se trouve que la quantité de gaz dissous dans le champagne va jouer sur de nombreux paramètres déterminants lors de la dégustation. La fréquence de formation des bulles dans le verre, la taille des bulles, la sensation en bouche et le bouquet, donc c'est ce qui correspond aux arômes. Donc j'espère que cela vous convainc de prendre soin du CO2. Ça vous convainc?
C'est en tout cas un effet positif.
Ouais. Alors le CO2 bien sûr dissout dans le champagne, hein, pas celui qui est dans l'atmosphère. Alors pour en prendre soin, tentons de comprendre son origine. Il provient de la fermentation qui permet de transformer le sucre, qui est présent notamment dans le jus de raisin, en éthanol. Cette réaction permet donc d'avoir une solution alcoolisée et elle se produit dès lors que des levures sont déposées dans la bouteille. Dans le cas du champagne, il n'y a pas une mais 2 fermentations. À la fin de la première, on a une solution qui contient environ 11% d'alcool et on a libéré près de 50 litres de CO2 par litre de mou. Alors heureusement qu'il n'est pas encore en bouteille, sinon ben, avec une telle quantité de gaz, on pourrait risquer l'explosion. Alors une fois cette première étape terminée, on mélange différents vins et on lance une deuxième fermentation. Celle-ci se produit alors lorsque la bouteille est fermée, et donc les levures vont continuer à transformer le sucre en éthanol, mais cette fois-ci, pas d'échappatoire possible pour le CO2, il va forcément rester dans la bouteille. Alors qui dit gaz dit pression. La pression permet de quantifier la force qui est exercée par un gaz sur une surface. Une très belle illustration. Alors imaginez une bouteille avec dedans une seule molécule de gaz. Cette molécule va s'agiter dans tous les sens, et elle va s'agiter de plus en plus fort et de plus en plus vite si jamais on augmente la température, et elle va cogner de temps à autre sur une des parois de la bouteille. Maintenant, si on prend une quantité de molécules bien plus importante, bah, il y aura bien plus de choc. Et donc c'est comme ça que la pression va augmenter. Vous la sentez venir ?
La pression.
Alors ici, c'est exactement justement cette chose qui se passe. Plus la fermentation dure, et plus la quantité de CO2 gazeux augmente. Donc la pression va aussi augmenter. Or, il y a une loi qui nous dit, donc c'est la loi de Henry qui a été formulée par le très peu célèbre William Henry, que la quantité de gaz dissous dans un liquide est proportionnelle à la pression de gaz à la surface. Donc finalement, plus la pression de CO2 augmente, et plus on va dissoudre du gaz dans le champagne. Donc figurez-vous que cela est crucial, car c'est ce gaz dissous qui va ensuite se dédissoudre pour donner les petites bulles lors du service. Et cela a sa petite importance, car même si tout le monde n'est pas d'accord autour de la table, les bulles, c'est joli, et c'est la fête. Mais surtout, ces bulles vont jouer un rôle majeur dans la perception du goût et des arômes. Certains capteurs dans notre bouche et dans notre cavité nasale interprètent la présence de CO2 comme une sensation acide et parfois irritante, ce qui atténue alors le goût sucré. Ça, c'est pour le goût. L'effervescence créée par l'émission de bulles va aussi agiter les composés organiques qui ont été libérés par les levures, et cela va se transformer en mille et un parfums une fois au contact de notre nez. Alors voici quelques recommandations pour bénéficier de tous les apports du dioxyde de carbone lors de votre prochaine dégustation, ou pour mes convives lors de la dégustation actuelle. Donc premièrement...
Il était temps quand même.
Ah, c'est pour ça que je pense que la chronique est arrivée en premier dans l'émission.
Absolument.
Donc, servez bien frais. Parce que la quantité de gaz dissous diminue avec la température au sein de la bouteille. Et une fois servi, le CO2 s'enfuit aussi bien plus rapidement d'un champagne relativement chaud que d'un champagne plus frais. Deuxième conseil, préférez la flûte à la coupe. Donc je vois que nous, on est plutôt bien équipés. Alors là, c'est un peu plus subtil, mais on va s'en sortir. Donc la flûte est plus fine, alors que la coupe est plus évasée. Donc jusque-là, on est d'accord.
Donc, ça, c'est un principe physique indéniable.
Je crois que c'est le théorème de la coupe et de la flûte. Donc la surface d'interface entre le champagne et l'air est plus grande pour une coupe que pour une flûte. Et donc vu qu'il y a plus d'interface, il y a plus d'échanges. Et donc le champagne va relâcher une plus grande quantité de dioxyde de carbone juste après le remplissage du verre. Et ce qui va se passer aussi, c'est que dans le cadre d'une coupe, le dégagement du CO2 va être beaucoup plus rapide. Donc finalement, ça va gâcher un petit peu la perception des arômes, puisque vous allez avoir en fait une grande quantité de CO2 qui va sortir dès le début. Et vous allez ensuite avoir moins de ventilation du champagne. Alors qu'à l'inverse, une flûte permet de moins dégager de CO2 dès le début et de limiter en fait la diffusion du CO2. Donc tous ces principes ont été validés par des auteurs par les auteurs de l'article qui ont mesuré les quantités de gaz relâchées dans les deux cas, et donc ils ont pu vérifier scientifiquement ce fait. Hein, merci à eux. Et dernier point, servir le champagne un peu comme une bière en fait. Il faut pencher la flûte. Parce que si jamais vous la laissez toute droite, bah vous allez aussi, encore une fois, relâcher plus de CO2. Alors là aussi, ça a été prouvé scientifiquement par les auteurs de cet article. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont suivi avec une caméra infrarouge la création du panache de CO2 lorsqu'on verse le champagne dans un verre. Et donc ce que l'on voit, c'est que le panache est beaucoup plus important lorsqu'on le verse dans une coupe. Alors un dernier point, mais que les spécialistes pourront sûrement mieux argumenter que moi, plus un champagne vieillit et plus la quantité de gaz dissous diminue. Alors peut-être qu'il y a des contreparties apportées par le développement de nouveaux arômes, ça je dois avouer que j'y connais pas grand-chose, mais sachez qu'en fait ce phénomène c'est lié à la porosité du bouchon qui laisse petit à petit s'enfuir le CO2 dans l'atmosphère. Donc vous voilà donc paré pour déguster au mieux votre flûte au réveillon, et vous aurez remarqué au passage qu'on aura discuté durant ces premières minutes de l'émission de thermodynamique sans causer aucune allergie ou autre désagrément. En tout cas, cette chronique m'aura fait découvrir le fabuleux champ de ce que les anglophones appellent gastrophysics. Alors, ça n'a rien à voir avec notre microbiote, mais avec l'idée de comprendre les phénomènes fondamentaux qui sont liés à la physique et à la chimie qui se cachent derrière le monde culinaire, comme la qualité des matières premières, la préparation d'un plat, le goût et l'absorption par le corps. Donc je vous invite, durant les prochaines vacances, qui je suis sûr vont être propices à de nombreuses fantaisies gastronomiques, à aiguiser votre regard pour commencer l'année sur une foultitude de questions aussi passionnantes qu'intrigantes.
Et vos papilles ?
Bien sûr.
Merci Jérémy. Qu'est-ce qu'on aime dans le champagne et dans les vins pétillants ? Les bulles, que l'on doit également à la présence du dioxyde de carbone. Et c'est une buveuse de rhum, le Divine Vendée, qui nous en parle.
Buveuse de rhum, amatrice de bière, et ce soir, j'apprécie le champagne qui est là devant nous. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on aime le plus dans le champagne et dans les vins pétillants ? C'est...
Les bulles !
Oui,
les
bulles. Merci. Et je suis sûre que vous vous êtes toujours demandé comment se forment les bulles dans le champagne et ce qu'elles apportent en plus à ce breuvage. Pour ce qu'elles apportent en plus à ce breuvage, Jérémy vient de nous l'expliquer. Voici quelques explications sur leur formation, des informations qui vous serviront certainement à briller le soir du réveillon. Tout d'abord, il faut parler d'effervescence du champagne. Comme Jérémy l'a expliqué, ce phénomène est dû à la présence de dioxyde de carbone, le CO2, dans le champagne. Ce dioxyde de carbone est produit dans la phase dite de prise de mousse, quel joli nom, qui est en fait la deuxième fermentation alcoolique qui a lieu dans la bouteille. Wouh ! Oh, j'ai eu peur.
Les aléas du direct.
C'est ça. Il faut que j'enchaîne. Donc, je disais donc que le CO2, il est produit dans la phase dite de prise de mousse. Alors, dans une bouteille de champagne de 75 centilitres, il y a environ 5 litres de gaz dissous. Mais c'est surtout que ça correspond à environ 80 millions de bulles. Cela dit, comme Jérémy l'expliquait aussi, le gaz dans une flûte de champagne ne s'échappe pas que sous forme de bulles, mais aussi via la surface. Et environ 80% du gaz part de cette manière, via la surface. Les bulles qui restent ne représentent que 20% du gaz présent initialement dans la bouteille. Si on ramène ça à une flûte de champagne et que vous attendez bien sagement que toutes les bulles s'échappent, vous aurez compté 2 millions de bulles. Rien que ça. Ça nous dit toujours pas comment les bulles apparaissent. Eh bien, figurez-vous que de nombreux scientifiques se sont posé la question. Parmi eux, je me suis intéressée aux travaux de Cédric Voisin, auteur d'une thèse intitulée « Quelques aspects de la nucléation des bulles de champagne dans une flûte et de leur ascension à petit nombre de Reynolds ». Alors, ces travaux relèvent en grande partie de la thermodynamique et de la physico-chimie. Et qu'est-ce qu'ils nous apprennent ? La vie d'une bulle s'organise en trois étapes principales correspondant à des situations chimiques et physiques différentes. La première, la formation qui fait intervenir un objet solide emprisonnant la poche de gaz destinée à devenir une bulle. La deuxième, l'ascension que la bulle commence juste après sa naissance sous l'influence de la gravitation et au cours de laquelle le gaz est seul dans le liquide. Et l'éclatement lorsque la bulle arrive en surface. Plof. La formation de la bulle, ça s'appelle la nucléation. Plus précisément, c'est la formation dans un milieu de structure et de composition définie de germes constituant des centres de développement d'une nouvelle phase, c'est-à-dire une nouvelle structure physique ou chimique. En gros, dans le liquide, une phase gazeuse se crée à partir d'un agent de nucléation. On a longtemps pensé que les bulles se formaient dans la porosité du verre. Idée en partie fausse. Cédric Voisin explique, je cite, « Les verres actuels sont en fait suffisamment lisses pour interdire l'emprisonnement de la poche de gaz nécessaire à la formation de la bulle. Récemment, les fibres de cellulose ont été identifiées comme les vrais berceaux de la bulle en conditions réelles, mais n'ont pas été étudiées précisément ni incluses dans un modèle, ce qui est l'objet de ce travail. » Donc voilà, le secret des bulles, ce sont les fibres de cellulose qui sont présentes partout, dans nos vêtements, sur les chiffons, bref, dans nombre d'objets utilisés tous les jours. Cela explique leur très grande abondance dans l'atmosphère sous forme de particules de poussière qui se déposent partout et même dans nos verres utilisés pour boire notre petite coupette de champagne. Bref, les fibres qui sont rencontrées dans la nucléation des bulles ont principalement pour origine l'atmosphère et les chiffons utilisés pour essuyer les flûtes. Pour sa démonstration, Cédric Voisin a utilisé une caméra ultra rapide, 20 à 30 images par seconde, munie d'un objectif de microscope. Il a alors pu étudier les fibres qui apparaissaient comme des tubes creux, plus ou moins réguliers, d'une longueur pouvant aller de quelques dizaines de microns à environ 2 mm. Dans les fibres les plus longues, les poches de gaz dépassent rarement 2 ou 3 centaines de microns. Il a montré aussi le processus complet menant à la libération d'une bulle, qui est très complexe. Il commence par le grossissement de la poche de gaz prisonnière à l'intérieur de la fibre. Lorsque la poche de gaz devient trop grosse, elle éjecte une partie de son gaz, tandis que la partie restante reprend sa place, sa taille initiale. Pardon. Le détachement de la bulle, c'est-à-dire la rupture de la poche de gaz en deux parties, est très rapide, mais est essentiel, car sans ça, la totalité de la poche de gaz serait éjectée et le champagne serait un vin tranquille, sans bulle, donc moins intéressant.
Pas moins intéressant, différent.
Différent. La durée d'un cycle de naissance détermine la période de bullage et dure en moyenne 0,1 seconde. Ce qui fournit des trains de bulles. Quand vous regardez votre petit verre, là, il y a des petites bulles. Ploup, 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 ploup. Ça se suit. Ces enchaînements de bulles que l'on observe ont une fréquence moyenne de 10 bulles par seconde et peuvent varier de 1 à 30 bulles par seconde. C'est énorme. Alors, pour finir, j'ai choisi un petit peu de poésie.
Ah, ça manquait.
Oui. Je trouve ça tellement joli, les bulles. Voici une phrase extraite du livre « Voyage au cœur d'une bulle de champagne » de Gérard Ligère-Beller et de Guillaume Polidori. Comme toi, nous avons les mêmes lectures. « Il est des spectacles qui incitent à la méditation. Les flammes d'un feu de cheminée, le lent mouvement des nuages dans le ciel et le reflux des vagues sur la plage. Les bulles de champagne qui s'égrènent verticalement dans une flûte. Les bulles exercent sans nul doute un réel pouvoir hypnotique. » Comme le rappelait le professeur de psychiatrie Édouard Zarifian, toute sphère est en soi image de la perfection. La bulle, forme de la beauté parfaite, réunit l'air et l'eau, ses éléments fondamentaux. L'univers est une bulle, c'est l'âme du monde que l'on voit s'envoler et rejoindre la musique des sphères.
C'est bon. C'est superbe. Merci beaucoup, Ludivine.
Mais de rien.
C'est vrai, Gérard Ligère-Beller, on peut peut-être le mentionner, Jérémy, je ne sais plus si tu l'as précisé dans ta chronique,
je
parce que
fait.
Tu l'as également évoqué, mais ce n'est pas inintéressant de mentionner le fait que Gérard Ligère-Beller n'est ni œnologue ni sommelier, mais il est biophysicien. Donc voilà.
Mais à Reims.
À Reims. Il est l'auteur du livre que Ludivine a mentionné à l'instant, mais il est également auteur d'un livre qui s'appelle « Effervescence, la science du champagne » en 2006 et en 2015, co-auteur du livre qui s'appelle « La vie secrète des bulles ». Voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui a travaillé, qui travaille en fait depuis très très longtemps sur cette science du champagne et qui nous a évidemment inspirés dans le cadre de cette émission.
Merci à lui.
Conclusion, Ludivine, de ta chronique, effectivement, c'est que finalement, la taille des bulles n'a aucune importance.
Je n'en ai pas parlé de la taille des bulles parce que la thèse de Cédric Voisin est assez complexe, mais la taille des bulles varie pendant l'ascension, mais il y a énormément de phénomènes qui rentrent en jeu, comme je disais, de la thermodynamique, de la physico-chimie pour aller plus loin, ce serait trop compliqué pour moi. Je pense que des chimistes seraient capables de comprendre ces
écrits. D'un point de vue, en tout cas, qualité du champagne, on ne peut pas se fier à la taille des bulles. Ce n'est absolument pas un argument.
Mais en fait, c'est ça qui est fou avec ce sujet, c'est que ça paraît relativement simple, entre guillemets, le champagne. On se dit, mais c'est un truc un peu... Surtout que c'est quelque chose qu'on fait depuis très très longtemps. Et je trouve que ce qui est justement intéressant quand on s'intéresse aux travaux de cette équipe, c'est de voir en fait toutes les disciplines qui sont combinées. Donc il y a la mécanique des fluides, il y a la thermodynamique.
Il y a de l'optique, parce que les images sont prises via des caméras.
Parce qu'on ne peut pas voir le CO2 à l'œil nu. Et c'est vrai qu'en fait, tout ça, ça montre en fait qu'il faut quand même combiner de très nombreuses disciplines pour comprendre un objet qui paraît aussi simple que le champagne, en fait.
Un produit.
oui, c'est ça, un produit. Un objet d'étude. Un produit d'étude.
Petit point, le saviez-vous ?
Oui. Le saviez-vous ?
Le saviez-vous ? Environ 300 millions de bouteilles sont produites chaque année en appellation champagne. Alors c'est un chiffre qui n'évolue que très très peu depuis l'an 2000. C'est un marché qui représente environ 5 milliards d'euros, dont 2,8 à l'export. Et effectivement, c'est une appellation qui bénéficie d'énormément de stocks, contrairement à d'autres.
Et c'est parce que c'est un stock parce qu'il faut garder les bouteilles, c'est ça ou...
Non, c'est parce que c'est ce que tu vends pas. Et effectivement, dans la mesure du possible, quand tu produis du vin, il faut avoir des stocks. Parce que s'il y a une année qui se passe mal et que tu produis la moitié de ce que tu fais d'habitude, il faut pouvoir vendre les années d'avant.
Et il y a d'accord. Beaucoup de faux aussi.
Et ça permet de maintenir les cours aussi.
Voilà.
Ce serait de la spéculation.
Non.
Eh bien justement, ces chiffres que je viens de vous évoquer sont finalement un indice de l'engouement que suscite encore cette boisson. Mais en cette période socialement troublée, nous devions d'accueillir sur ce plateau un témoignage dissonant. Il est un peu notre gilet jaune ce soir. Pour lui, le champagne, c'est surtout une bulle spéculative. Il en a gros, j'ai nommé Paul Pascal.
Il en a gros sur la bulle. Dans cet océan de joie et de bonheur, je voudrais en effet apporter ma petite note. Fausse, ma note. Parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse le rabat-joie et, comme toujours, c'est moi qui le ferai ce soir. C'est quoi cette habitude de mettre des bulles pour que la fête soit plus belle ? En quoi une petite sphère de gaz carbonique devrait nous enjouer, alors que notre espèce humaine se meurt de l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère et que nos ronds-points s'emplissent de révolutionnaires à gilets jaunes anti-taxe carbone? Y avez-vous pensé à notre espèce humaine, hein? Avez-vous conscience qu'en faisant sauter les bouchons, vous nous poussez vers le précipice? Et vous avez vraiment envie de trinquer à un bonhomme obèse en rouge et blanc guetté par des affections cardiovasculaires? De faire chin-chin à la nouvelle année pourrie qui s'annonce parsemée de taxes, de manifs anti-taxes, de répression de manifs anti-taxes ou d'attentats pseudo-religieux ou à la pudeur? Vous voulez vraiment boire à la santé de vos proches gavés de pesticides et de microparticules? Alors que chaque jour qui passe nous rapproche de nouvelles catastrophes climatiques et du prochain concert d'Indochine. Enfin, soyons sérieux. En plus, je suis sûr que vous ne soupçonnez même pas la souffrance du champagne à l'ouverture de la bouteille. À la mise en bouteille, tout n'est que sucre, levure, calme et volupté. Mais sous l'action des levures, le sucre se transforme petit à petit en alcool et en gaz carbonique. Pour ceux et celles qui ont suivi leur cours de chimie, plutôt que de reluquer les jambes des copines ou les torses musclés des copains, prenez des notes, je ne le répéterai pas. C6H12O6 devient 2CH3CH2OH plus 2CO2, c'est-à-dire 2 molécules d'éthanol et 2 molécules de gaz carbonique. Et les petites molécules de gaz carbonique, comme elles sont enfermées dans le contenant, la bouteille, elles se répartissent entre le volume d'air et le volume de liquide présent dans la bouteille. La pression monte, certes, mais l'équilibre des pressions reste parfait. Et vous, avec vos doigts déjà tout poisseux de la graisse, du foie gras et du saumon préparé en cuisine, vous rompez ce bel équilibre? Vous faites péter le bouchon, le Gaspard, il file envahir votre environnement? Et les petites molécules de CO2 contenues dans le liquide, toutes paniquées de ce brusque changement de pression, n'ont plus qu'à se précipiter vers le haut pour rétablir un semblant d'harmonie. Vous voyez un peu le bordel que vous avez mis juste pour avoir le plaisir de voir des petites bulles remonter dans votre verre? Non, vraiment, vous êtes immondes avec ces petites bulles qui bullaient tranquillement dans leur bouteille depuis des mois et des années et ne demandaient pas à participer au réchauffement climatique. Par pitié, laissez les bulles tranquilles! Bon, d'accord, je reprends mes cachets, je me calme. Tenez, passez-moi donc la bouteille cachée au fond de votre tiroir, Agathe. Oui, faites pas l'innocence. Oui, celle-là, la petite, celle sans étiquette. Versez-moi un petit verre de ce délicieux breuvage ambré qui embaume soudain tout le studio. Voilà, je me calme, je suis calme, je vais bien, tout va bien. Je m'en fous des bulles. Buvez ce que vous voulez, champagne ou pas, avec ou sans bulles, avec ou sans CO2, de préférence avec modération. Vivons heureux en attendant la mort tous ensemble. Que le grand bonhomme rouge fasse son office. Que la fête soit plus belle. Que l'année trépasse joyeusement. Laissez-moi juste ma petite bouteille. Vous sentez ce parfum de pomme? Il y en a. Il y a même que ça. Bon, allez, d'accord, passez-moi les bulles. Et vive le Normandie.
Engagé. Merci Paul et bravo pour le courage dont tu as fait preuve pour t'opposer aux bulles ce soir.
Vous savez tous que c'est le Normandie, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Ah, bon.
C'est un bateau?
Non, moi je ne sais pas.
Non, moi je ne sais pas non plus.
Eh bien, le Normandie, c'est un petit cocktail avec 3 centilitres de calvados, 3 centilitres de pomme aussi, bien sûr. Le complément en champagne. Voilà, bonne soirée.
Ah, donc tu as une petite tolérance.
Donc tu nous as ramené du pomme et tu nous as ramené du calva pour qu'on se teste le breuvage.
Absolument, bien sûr. Je le sors de sous la table immédiatement.
Merci beaucoup, Paul. Un petit point. Nouveau point, le saviez-vous?
Le saviez-vous?
Ding, ding, ding. Le rouge à lèvres nuit aux bulles.
Oui, je le savais.
Mais t'es pas censé dire ça.
Faut dire, ah bon? Ah bon?
C'est très
je
bien.
Je l'ai lu.
Le gras du rouge à lèvres les fait éclater prématurément. Alors, ça ne nuit pas aux qualités du produit. Mais pour les amateurs et les amatrices, finalement, ça casse un peu le charme de la dégustation. On ne va pas se mentir. Donc, conclusion, pas de rouge à lèvres pendant qu'on boit du champagne.
Je proteste violemment sur le début de cette remarque. Parce que si à Noël, je pars en famille, je porte rarement du rouge à lèvres. Rien ne préjuge de ce que je fais au premier de l'an.
Mais tu devrais peut-être en mettre puisque tu n'aimes pas les bulles. Voilà.
Mon Dieu.
Pour toi, Paul, voilà, Jacques Higelin et le morceau.
Pour vous, Paul.
Bien nommé, le bien nommé Champagne. De retour au Labo des Savoirs où nous parlons champagne et nous goûtons champagne. Autant vous dire que nous réchauffons considérablement l'atmosphère avec toutes ces coupettes que nous ingérons. Cette phrase
parle pour toi, Agathe.
Hein.
Parle pour toi, Agathe, franchement.
Avec modération. Toujours avec modération. Où est-il d'ailleurs?
Il y a des buveurs de crémant autour de cette table.
Lol.
Il y a des traîtres parmi nous, des buveurs de crémant.
Regarde, il te sert un verre de jus. C'est l'heure, je pense, de passer à un petit quiz sur les idées reçues sur le champagne. Alors, évidemment,
oh oui,
certaines réponses se sont glissées dans les chroniques que nous avons entendues voilà, jusque-là.
Oh oh.
Et c'est un vrai ou faux?
Oui.
Voilà, c'est pas trop compliqué. Je m'adapte à la situation, hein, vous avez vu. Première question. La finesse des bulles est-elle un gage de qualité?
Non. Non,
c'est pas la taille qui compte.
Et cette phrase, professeur Max, n'a jamais été aussi vraie.
J'aime-tu à le dire.
La taille des bulles dépend principalement de la quantité de dioxyde de carbone dissous. Elle ne dit absolument rien de la qualité de la boisson. Deuxième question. Plus le champagne est froid, plus le bouchon part vite.
Faux.
La preuve, vrai.
C'est...
Faux. Bah non, la
moi,
preuve...
je dis comme Jérémy.
Je pense que plus c'est froid et plus la pression est importante.
Eh bien, professeur Max a raison.
Bah, je viens
plus
de...
le champagne est froid, plus le bouchon part pas vite.
tu te rappelles pas? Rappelle-toi de tes cours de SVT où on t'expliquait que plus l'eau était froide, plus le CO2 était dissous dans l'eau.
Et dissous, c'est pas cher.
Et donc, du coup, si le gaz est dissous dans le...
Tu disais pas la même chose, justement, sur la température.
Non, il semblait que... Ah oui,
c'est
parce
faux.
Que plus c'est faux, plus le CO2 s'en va.
J'ai volontairement posé la question de façon à vous embrouiller.
Ah,
et je
là,
me
là,
suis
là.
Moi-même embrouillée.
Je rappelle que j'ai manqué de tuer un de nos invités il y a 20 minutes. J'ai Dounia a perdu un dixième à chaque oreille.
Je reprends.
Elle a même perdu
donc,
dans les yeux.
C'est donc faux. La vitesse d'éjection du bouchon de champagne est d'autant plus importante que la pression est élevée. Jérémy, c'est ce que tu nous as expliqué tout à l'heure. Et la pression est d'autant plus élevée que la température augmente.
Je crois que j'ai pas su ma propre chronique.
Ah bah bravo.
Ah bah bravo.
Ah bah bravo.
Alors ça, c'est un autre problème. Troisième question. Le champagne se boit dans une flûte?
De préférence.
Oui, non, dans un godet.
De préférence.
Non, dans un verre à vin.
La réponse la plus juste est « ça dépend ».
Ouais. Ah,
la réponse de Normand. On parlait de trou Normand.
Sortez
tout à l'heure.
Je suis là.
Non, la réponse est « ça dépend ». Je vous explique.
Ah, oui.
En fait, si vous préférez les bulles fines, et c'est tout à fait corrélé à ce que Jérémy nous a expliqué tout à l'heure, si vous préférez les bulles fines, il vaut mieux opter pour la coupe. Les bulles grossissent au fur et à mesure qu'elles remontent dans le verre, et comme la coupe est moins profonde, les bulles seront plus fines. Si vous buvez lentement, vous prenez le risque de perdre plus vite son pétillant. Donc finalement, avec une flûte, vous limitez la surface d'échange avec l'air, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le vin perdra donc son gaz un peu plus lentement. Dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est incliner le verre au moment du service. Et ça, Jérémy nous l'a bien expliqué tout à l'heure.
Et donc, le Normand boit dans un verre à vin qui est la juste milieu entre la coupe
la juste
et
milieu,
la juste milieu.
Le
c'est
juste
dommage.
Milieu.
Tu viens de perdre toute crédibilité.
La coupe et la flûte.
Je pense que en fait, le plus efficace serait un tube à essai, puisque pour le coup, c'est.
Une pipette?
Non, pas justement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le tube à essai est pas assez bon puisque malgré tout la.
Bah, il pourrait y avoir une petite surface d'interface en fait.
Ouais, mais t'as très peu de surface d'interface pour que l'éclatement des bulles puisse atteindre ton nez.
Tu prends une fiole à jauger.
Hein. Tu ne profites pas des arômes.
Il faut pas qu'il y en ait trop d'un coup. En fait, si jamais il y a trop de CO2 d'un coup, on a l'impression d'acidité et on perd les arômes en fait. C'est ça la difficulté, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre.
Ah mais un tube à essai, c'est un centimètre de diamètre.
Ça dépend. Non mais.
D'où ça dépend, ouais.
On peut boire du champagne correctement dans une coupe ou dans une flûte. Ça dépend de notre façon de boire.
Exactement. Et on a pour tous les goûts.
Et dans une fiole à jauger alors.
Je pense
et dans
qu'on
un
a
vase.
On va faire toute la verrerie de chimie.
Alors et au boulot.
Vous pouvez venir tester pour le rhum au labo.
Question suivante. Mettre une cuillère dans une bouteille pour limiter son dégazage ne sert absolument à rien.
Ça sert à rien.
Je dirais que ça sert à rien aussi.
C'est un placebo. Non, mais surtout que le CO2, il va pas se dire « Oh non, une cuillère, je ne peux pas passer !»
Bah, peut-être qu'il est très très
c'est
con.
C'est un peu comme...
Non mais Valentin a très bien illustré la réaction du CO2. Finalement, la seule manière de conserver une bouteille ouverte, c'est de la reboucher hermétiquement.
Ou de la finir.
Je vais me permettre d'intervenir, mais j'aimerais que tu nous montres comment tu mets une cuillère dans une bouteille.
Mais bah, non, mais dans le boulot.
Le mange de la cuillère.
Oui.
Oui.
D'accord.
Ah bah merci, oui. Dounia. C'était donc Dounia. Ah,
mais comment vous avez fait, monsieur Presco? Une dernière question et après, c'en est fini du
coup. Nous t'autorisons à tout aussi.
Attention,
nous n'avons pas de gagnant. Dernière question. Avec les bulles, on est sous ou saoule plus rapidement?
Non.
Faux.
C'est le taux d'alcool qui fait que tu deviens sous plus rapidement.
Eh ben, c'est vrai.
Ah. Non, c'est faux.
Non, c'est vrai. Enfin, on aimerait que ce soit faux. Bien sûr que ce soir, on aimerait que ce soit faux. Je vous l'accorde, mais c'est vrai. Et voilà un mystère que la science de l'effervescence n'a pas encore résolu. L'action des bulles n'est pas encore très claire, hein, d'après les études de Gérard Liger-Beller, puisque je me suis basée sur ses travaux. L'action des bulles n'est pas encore très claire, mais différentes études comparatives ont montré que l'effervescence du champagne montait plus vite dans le sang que le vin tranquille. Mais on ne sait pas exactement quels sont les processus qui se mettent en place.
Mais du coup, alors après, si je me souviens d'une chronique que j'ai fait il y a quelques années pour le Bistrot des Savoirs, le gaz dissous aussi va influencer énormément la gueule de bois le lendemain, puisque va passer dans le sang et changer la concentration en oxygène dans le sang et provoquer des maux de tête, si je me souviens bien. Enfin, voilà.
Moi, il y a un truc que j'étais quand même plutôt curieux sur les travaux de Gérard... Liger-Beller, c'est de comprendre les protocoles expérimentaux qu'il met en place. Parce que quand on voit des photos de coupes de champagne, tout ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il advient de tout ce champagne une fois qu'il est utilisé?
Ben, il est bu.
Bah, on sait pas.
Le champagne en champagne, c'est sacré. Le nom champagne est réservé à sa seule appellation qui répond à une méthode particulière dite champenoise mise au point il y a à peu près 3 siècles. Qu'est-ce, professeur Max?
Eh bien, très chère Agathe, Napoléon disait à propos du champagne, aïe, en cas de victoire, je le mérite. En cas de défaite, ah ouais, j'en ai besoin. C'est dire. Eh oui, eh bien, je suis désolé, mais il était ajaxien, donc. C'est dire si l'empereur a dû en faire des caisses. Je tiens cette anecdote du directeur technique de Moët-et-Chandon en 2004. Vous savez, Moët-et-Chandon, une des plus anciennes maisons champenoises, producteur et négociant. Hein. Fleuron de notre industrie vitivinicole. Eh bien, il m'avait reçu à l'époque dans une autre vie dans les appartements qui, à l'époque, étaient réservés à Napoléon au sein de la prestigieuse maison, car Napoléon était donc un bon client. Ça avait de la gueule, quand même. D'ailleurs, en Champagne, tout est question d'image. La Champagne est l'un des plus célèbres vignobles de France, et pourtant, il est l'un des plus petits. En effet, avec ses 33 878 hectares, il représente seulement 4% de la superficie viticole française. Mais il pèse près de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, comme tu disais si bien, Agathe, tout à l'heure, en me parasitant ma chronique. Bien, du coup, en me coupant l'herbe sous le pied.
J'ai toujours un temps
d'avance. Donc la champagne est quelque part l'une des plus belles valeurs ajoutées de la viticulture française. Mais on ne plaisante pas avec le nom champagne. Même la maison Yves Saint-Laurent avait dû se rhabiller suite au lancement de son parfum champagne au début des années 90. D'ailleurs, petit détail qui a son importance, 72% des metteurs en marché sont de puissants négociants, un atout commercial pour le vignoble. Selon le Conseil interprofessionnel des vins de champagne, CIVC, l'export représente 50% du marché. Et l'appellation champagne est presque reconnue partout dans le monde. Oui, presque. Il y a bien une petite dizaine de pays qui résistent encore et toujours. Trois fois rien. Non, juste les USA et la Russie, qui ne reconnaissent pas l'exclusivité du nom champagne. C'est juste les deux plus puissantes armées du monde. Pas de bol. Donc le champagne est une appellation d'origine du nord-est de la France. Oui, mais encore. Eh bien, parmi les 7 cépages qui sont autorisés dans l'appellation, en fait, 3 sont principalement utilisés dans l'élaboration des cuvées. Le chardonnay, le pinot meunier et le pinot noir. Ça, c'est utile quand même pour les consommateurs de savoir ce qu'on va goûter. Alors, on parlera de blanc pour des cuvées 100% chardonnay. Le terme opposé au blanc de blanc est le blanc de noir. Un vin blanc produit avec du raisin rouge. Oh, ils sont forts en champagne.
C'est pas tout à fait du raisin rouge. Hein. La peau est rouge, enfin la peau est noire, mais l'intérieur est blanc.
Exactement, c'est pour ça que ça fait du vin blanc.
En Champagne.
Non mais.
Mais oui. En Champagne, on utilise alors le pinot noir, le pinot meunier ou les deux en assemblage pour faire donc des blancs de noir. L'importance du négoce influe aussi sur les pratiques. Les négociants peuvent ainsi élaborer des cuvées avec différentes années, ceci afin de garantir une qualité constante. Mais lorsque l'année est exceptionnelle, on utilise alors la seule production annuelle. Dans ce cas, on parle de champagne millésimé, donc de millésime. Enfin, le champagne doit tout à sa méthode champenoise, comme tu disais si bien, Agathe. Mais qu'est-ce à quoi la méthode champenoise ? Eh bien, c'est une méthode d'élaboration de vin effervescent par fermentation en bouteille, qui s'appelle obligatoirement méthode traditionnelle dans les autres régions. Les champagnes sont donc les seuls vins aujourd'hui autorisés en Europe à faire usage de cette mention. La méthode champenoise, donc, elle transforme un vin tranquille en vin effervescent en lui ajoutant, lors de sa mise en bouteille, une dose de levure qui vont finir de transformer le sucre du moût en alcool avec la production de gaz carbonique, ce qu'on appelle la prise de mousse. Mais cette opération laisse un dépôt de levure morte. Alors, pour l'éliminer sans filtration, les bouteilles doivent être régulièrement remuées la tête vers le bas, ce qu'on appelle le remuage. Puis elles sont rouvertes, ce qu'on appelle le dégorgement, pour éliminer le dépôt. À cette occasion, on compense la perte par un rajout de vin de champagne effervescent et d'une liqueur de dosage avant le bouchage et le muselage définitif. Ça, c'est donc la méthode champenoise, ou, si vous avez bien écouté, la méthode traditionnelle pour les autres appellations.
En fait, il n'y a aucune différence entre la méthode champenoise et la méthode traditionnelle.
Aucune, c'est juste une question de droit à l'image. Une question de droit à l'image surtout, ouais. Une question géographique, mais qui vient principalement donc du droit à l'image. Alors les autres mousseux, comment sont-ils fabriqués ? Eh bien, en partie avec la méthode traditionnelle, comme je disais à l'instant, mais aussi avec la méthode ancestrale. Et ça, c'est une méthode différente puisque c'est une méthode à fermentation simple. La Clairette de Die en est un parfait exemple. On produit un vin tranquille. Puis, lors d'une deuxième phase, eh bien, la prise de mousse s'effectue en bouteille, sans addition de liqueur de tirage ni liqueur d'expédition. En clair, la prise de mousse s'arrête seule par épuisement des levures. Le dépôt est d'un volume insignifiant. Il n'est pas éjecté. Il n'y a donc pas de dégorgement, contrairement au champagne. Enfin, je vous déconseille très fortement les vins gazéifiés, hein, puisque nous sommes à 6 jours de Noël. Alors, qu'est-ce qu'un vin gazéifié ? Eh bien, c'est un vin, tout simplement, un vin normal auquel on rajoute du gaz carbonique exogène, c'est-à-dire qui n'est pas qui vient de l'extérieur, qui vient d'une cuve. Donc c'est vraiment un rajout de gaz carbonique. Alors effectivement, le goût fatalement va s'en ressortir. On n'aura rien de fruité, on n'aura pas d'arôme, on aura vraiment un goût de gaz carbonique et les maux de tête qui viennent en conséquence.
Ben, en fait, après, ce qu'il faut se dire, c'est que les levures, en fait, elles vont aussi libérer des composés organiques. Donc en fait, des molécules, des composés organiques, c'est des choses qui vont avoir une odeur assez particulière et c'est ça qui va donner les arômes du champagne ou du vin. Donc si jamais on ne met pas les levures et qu'on met juste le CO2 directement, bah, on ne va pas avoir la même composition chimique de la boisson. Et donc du coup, le goût va être changé. Après, je ne sais pas si c'est peut-être bon, hein, mais en tout cas, c'est pas quelque chose...
Par expérience, non.
Auquel on s'attendra. Quoi.
En tout cas, le consommateur peut le reconnaître puisque c'est clairement indiqué vin gazéifié. Donc là, au moins, il n'y a pas de piège une fois qu'on est prévenu.
Et si on n'a pas ces arômes-là, en fait, en plus, ce sont des arômes qui sont remontés après dans la flûte par les bulles du champagne qui se fixent à la surface de la bulle de champagne, et quand la bulle de champagne va arriver en surface et s'éclater, elle va libérer ses arômes, ce qui intensifie aussi ce petit goût sympa.
Voilà, okay. Voilà, c'est fini.
Merci beaucoup professeur Max. Alors il y a une question en attendant à laquelle tu n'as pas répondu. C'est à quel grand nom de champagne est-ce qu'on doit l'élaboration de cette méthode champenoise ? Et ça, c'est une question très taboue dans le vignoble. Autre spécificité, tous les vins de champagne s'épanouissent 15 mois minimum dans les caves de leurs élaborateurs ou élaboratrices. 3 années sont nécessaires pour les vins millésimés et beaucoup plus pour les cuvées spéciales, car le temps, on l'a compris, permet d'enrichir les arômes du champagne. Le saviez-vous ? En Champagne, les vendanges à la machine sont interdites. On récolte le raisin à la main sur les 34 000 hectares de l'appellation. Et c'est le cas aussi des producteurs de crémant de Bourgogne. 1, 2, 3.
C'est le labo du savoir.
Glendale et le morceau sobrement intitulé Champagne, une fois de plus. Champagne qui parfois défie le temps. C'était il y a 8 ans, en 2010, vous en avez probablement entendu parler. Des bouteilles de champagne français vieilles de 162 ans ont été retrouvées dans l'épave d'un navire dans la mer Baltique, proche des côtes finlandaises, par 50 mètres de fond dans l'obscurité la plus totale. la cargaison de 168 bouteilles qui comprenait du Veuve Clicquot, du Hetzig et du Juglar. Alors Juglar aujourd'hui ça s'appelle Jackson, ça a été absorbé en 1829. Donc comment on a su de quelle maison ça provenait? Eh bien d'après les bouchons. Ils ont été analysés chimiquement par l'équipe du professeur Philippe Jandet, professeur de biochimie alimentaire à la faculté des sciences de l'université de Reims, encore une fois. Eh oui. Le chanceux les a également goûtés. Alors pas beaucoup, une infime quantité, quelques 100 microlitres, c'est-à-dire 2 gouttes, en gros. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Eh bien voilà ce qu'il dit. C'était un très beau vin, c'était impressionnant, j'ai gardé l'arôme longtemps dans la bouche, il avait un goût de tabac et de cuir. Fin de citation. La surprise des œnologues et des scientifiques qui ont examiné ces échantillons réside dans la qualité de la préservation, que ce soit du point de vue de la composition chimique que des arômes. Et contrairement à ce qui était attendu, il n'y a pas de grande différence dans les profils chimiques de ces très vieux champagnes par rapport à ceux d'aujourd'hui. Du point de vue de la santé du consommateur, je pense que ces champagnes étaient quasiment aussi irréprochables que les vins d'aujourd'hui, même s'il y avait des teneurs un peu plus élevées de cuivre provenant probablement de la sulfatation des vignes contre les champignons notamment à l'époque, puisqu'évidemment on n'avait pas les mêmes façons de traiter les vignes. Les analyses ont aussi révélé du fer provenant des récipients métalliques utilisés alors pour ajouter du sirop de raisin, ainsi que des signatures chimiques du bois. À cette époque-là, la vinification se faisait dans des tonneaux de chêne. Aujourd'hui, ce processus se fait dans des cuves en inox. Les résultats de ces travaux, qui donnaient un éclairage sur les méthodes de fabrication et les goûts des amateurs et des amatrices de ce vin prestigieux au milieu du XIXe siècle, ont été publiés dans les comptes rendus de l'Académie nationale américaine des sciences. Qu'apprend-on sur les goûts des consommateurs et des consommatrices de l'époque? Le champagne analysé était très sucré. Il contenait à peu près 150 grammes de sucre par litre, soit 3 fois ce que l'on trouve aujourd'hui dans une bouteille de Coca-Cola. Mais les archives de Veuve Clicquot notamment montrent que cela correspondait au goût de l'époque en France ou en Allemagne. Aujourd'hui, ce sont les champagnes en fait très peu dosés, à maximum 50 grammes de sucre par litre, qui ont la préférence du public. Le fait qu'on ait retrouvé ces bouteilles dans la Baltique fait dire à certains œnologues que cette cargaison était destinée au marché russe, très friand de champagne à l'époque. Mais d'autres en doutent. En fait, pour eux, ils n'étaient pas assez dosés pour la Russie, où l'on aimait à l'époque les champagnes encore plus sucrées. Et malheureusement, je pense qu'on n'aura jamais la réponse à cette question. Je vous propose d'écouter un dernier morceau Farai, qui s'appelle Punk Champagne cette fois-ci. On innove. Cette émission touche bientôt à sa fin.
Oh ah, mais moi alors.
Mais Valentin Briche est parmi nous. Et lui, il n'aime pas l'alcool. Ah. À moins que ce soit l'alcool qui ne l'aime pas.
Ah, maudit.
Ce soir, Valentin Briche est la petite fée du CSA. Celui qui nous rappelle que, eh oui, l'alcool est dangereux pour la santé. Il est à boire avec modération.
Exactement. Alors, c'est pas que je n'aime pas l'alcool, c'est juste que je ne suis pas un très grand fan. Je trouve ça trop amer, il n'y a guère que quelques bières fruitées que j'apprécie. Alors pendant longtemps, et encore aujourd'hui, je me suis demandé, mais qu'est-ce que tout le monde a avec l'alcool? Rappelons que les humains sont l'une des très rares espèces capables de métaboliser, c'est-à-dire supporter biologiquement l'alcool. Pourquoi? Cela viendrait de nos ancêtres communs avec les singes, qui mangeaient les fruits trop mûrs, tombés par terre, et dont les sucres avaient fermenté. Donc, si on boit de l'alcool, c'est avant tout parce qu'on peut le faire sans mourir intoxiqué. Ça, c'est une première chose. Les humains ont aussi commencé très tôt avec l'alcool. 7000 ans avant Jésus-Christ, la bière était une boisson courante, puisqu'on en a retrouvé des recettes sur des tablettes d'argile et des traces chimiques à l'intérieur de jars en terre cuite, un peu partout autour du bassin méditerranéen et au-delà. On a retrouvé des traces de brassage datées d'il y a 13000 ans en Israël. Mais à l'époque, on ne l'utilisait pas pour les fêtes, mais pour les rites funéraires. La production d'alcool ne date donc pas d'hier, et sa consommation est universelle. Chaque culture a ses propres alcools, selon les ingrédients à leur disposition. On a des céréales, on va faire de la bière. On a du riz, on va faire du saké. On a du raisin, on va faire du vin. Bref, on pourrait continuer comme ça très longtemps. Pour autant, quand bien même nous le supportons, l'alcool peut, lorsqu'il est consommé avec excès, être toxique pour notre organisme. N'en déplaise à mes camarades buveurs et buveuses autour de la table.
Je ne vois absolument pas de qui tu parles.
Oui. Le foie, par exemple. Maltraité par tous les buveurs et buveuses d'alcool et les accros aux pâtisseries, bien évidemment. L'éthanol, comme le glucose en trop grande quantité, est mauvais pour lui. Mais soyons précis. En vérité, ce n'est pas l'éthanol en lui-même le danger, mais l'acétaldéhyde, l'intermédiaire dans la métabolisation de l'éthanol. Lui est dangereux car il modifie certaines protéines de notre organisme et les rend antigéniques,
ce qui déclenche des réactions immunitaires ou allergènes. De plus, l'acétaldéhyde favorise la mort cellulaire lors de la mitose. Autrement dit, au lieu d'avoir une vieille cellule qui meurt et une nouvelle toute neuve et fraîche, on en a deux mortes. Et comme c'est le foie qui s'occupe de métaboliser le tout, il s'en prend plein les cellules. Les maladies hépatiques, c'est-à-dire les maladies du foie, c'est une sorte de divorce qui se passe mal. Pendant des années, tu n'écoutes pas ton foie, tu l'obliges à éponger tes excès sans faire le moindre effort, et un jour il en a marre et il se bat en emportant la plupart du reste de ton espérance de vie. Bon, heureusement, notre foie est indulgent, et il faut vraiment le pousser à bout pour qu'il en arrive à cette extrémité. Alors pourquoi autant de gens aiment l'alcool ? On ne peut pas considérer l'alcool uniquement comme une sorte de lubrifiant social, parce que sinon, que faire de l'œnologie et toutes les personnes qui apprécient l'alcool pour son goût, les savoir-faire qui vont avec et qui le consomment en général de façon responsable ? Eh bien, la raison réside sans doute dans ce que les gens recherchent. Certains apprécient ses arômes, tandis que d'autres sont simplement à la recherche de ses effets psychotropes. Le tout est de rester raisonnable dans les quantités ingurgitées et de ne pas laisser la pression sociale l'emporter.
Ce que tu fais parfaitement bien, Valentin, ce soir.
Avec Vassili, bien évidemment.
Tout à fait, accompagné de Vassili.
J'aimerais faire une petite remarque, en fait. Donc la bière, c'est moins 7000 avant Jésus-Christ, si j'ai bien compris.
Oui. Voire moins 13 000.
Moins 13 000. La découverte de l'atome, c'est 1900. Donc je pense qu'on a compris un peu les priorités de l'humanité ce soir.
Santé.
La Champagne, célèbre dans le monde entier pour la qualité de ses vins effervescents, est l'un des vignobles français les plus atypiques. Et la science n'y est pas pour rien. Enregistrant des records de vente à l'export, le vignoble champenois ne se repose pas sur ses lauriers. C'est même aujourd'hui, du point de vue de la production, l'un des vignobles les plus dynamiques du pays. Cette ébullition vient d'une génération renouvelée de vignerons et de vigneronnes bien décidés à prendre leur appellation en main, en s'orientant par exemple vers la viticulture biologique ou en élaborant des vins de terroir identitaires afin de s'écarter du modèle des grandes maisons. Tout comme la science finalement, le champagne exige donc une méthode rigoureuse et spécifique. Merci à toute l'équipe présente ce soir. Vraiment, bravo. Merci évidemment aux autres bénévoles du Labo des Savoirs qui sont présents éventuellement autour de nous ou bien qui n'ont pas pu être présents avec nous aujourd'hui. Très bonne fête à toutes et à tous. On se retrouve au mois de janvier. D'ici là, nos émissions sont à écouter ou à réécouter sur le www.labodessavoirs.fr.
Radio G. www.radio-g.fr.
So I won't know, no. Yes, more life and blessing. I'm Monkey Mark, no, no. Yes. Hey, this is Cybermar, yes. Yeah, yeah, yes. Whoa, whoa. Yes, a full teaching, sky check is love. Just live and love your life. I step away from the wrong and do the right. Oh, yes, a full teaching, sky check is love. Just live and love your life. I step from the war and the strife. Where I yes, out of many we are one. I had said up, we no want to see no division. So no more school, no fear more. Sick with no rich at the poor. In a sip of a tea, knock it at every door. Man, I be firm and strong up in a Gideon. Rise every youth and make we look from the pavilion. And if you lucky, if you earn all a million. Nobody pop style and boss for your brother, man. I tell you, it's a full teaching, cause check is law. Just live and love your life. I step away from the wrong and do the right. I step from the war and the strife where I. Yes, roads are rocky and the hills are steep. And muckers are scratchy and the gullies are deep. Yes, I know I feel live up in the belly of the best. And some of those against a youth I look them for the earth. And the message when me send it off your rich. I yes, I kiss a one, yes, can't have your faith. I still a bless up all the humble and the merc. Yes, this one is rare, no, no, no. I, this is I, but from afar, no, no, no. Yeah, I, yeah, I, yeah. Oh, yeah. I just let them know, no, 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 no.
same song. We all gonna sing the same song. Oh, whether you're a bubble, of Israel, we all gonna sing the same song. We all gonna jam the same jam. We all gonna chop the same chop. Chop. So if you argue, fuss and fight, giving hypocrites the right to say that you can't unite. My God, unify. I know we all gonna sing the same song. We all gonna jam the same jam. Jamming. We all gonna chop the same chop.
Find me.